Le journal de George Fox 1685-1690 Dernières années à Londres, et décès page 4 Je rédigeai peu après une autre épître, plus particulièrement destinée aux amis du ministère, qui étaient partis en Amérique de la manière suivante. Chers amis et frères, ministres, exhortateurs et admoniteurs partis en Amérique et dans les îles Caraïbes. Réveillez en vous le don de Dieu et l'Esprit pur, et faites fructifier vos talents, afin d'être la lumière du monde, une ville située sur une colline qui ne peut être cachée. Que votre lumière brille parmi les Indiens, les Noirs et les Blancs, afin que vous répondiez à la vérité qui est en eux et les ameniez à l'étendard et au signe que Dieu a dressé Jésus-Christ. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom de Dieu sera grand parmi les gentils, et dans chaque temple, ou cœur sanctifié, on offrira de l'encens au nom de Dieu. Et ayez du sel en vous-même, afin d'être le sel de la terre, afin de la saler, pour qu'elle soit préservée de la corruption et de la putréfaction, de sorte que tous les sacrifices offerts au Seigneur soient assaisonnés et soient une bonne odeur pour Dieu. Que tous croissent dans la foi et la grâce de Christ, afin de ne pas être comme des nains, car un nain ne s'approchera pas pour offrir sur l'autel de Dieu, bien qu'il puisse manger du pain de Dieu, afin d'en grandir. Et amis, ne soyez pas négliges, mais maintenez les réunions de vos noirs et vos réunions de famille, et tenez des réunions avec les rois indiens, leurs conseils et leurs sujets partout, et avec d'autres. Amenez-les tous à l'esprit qui baptise et circoncis, par lequel ils peuvent connaître Dieu, le servir et l'adorer. Et que tous prennent garde de s'asseoir dans la terre et d'avoir l'esprit aux choses terrestres, convoitant et luttant pour la terre, car avoir l'esprit charnel apporte la mort, et la convoitise est idolâtrie. Il y a trop de crêles et de disputes à propos de cette idole, qui fait que trop de gens sortent du sentiment et de la crainte de Dieu, si bien que certains ont perdu la moralité, l'humanité et le véritable amour chrétien. Oh, soyez donc réveillés à la justice et demeurez éveillés, car l'ennemi sème son ivraie tandis que les hommes et les femmes dorment dans l'insouciance et la sécurité. C'est pourquoi tant de paresseux vont en leur guenille et n'ont pas le fin lin, la justice de Christ, mais ils peinent et labourent avec leurs bœufs et leurs ânes dans leurs vêtements de laine et de lin, étoffes mêlées, se nourrissant d'une nourriture déchirée, qui meurt d'elle-même, buvant la lie de leurs vieilles bouteilles, et mangeant le pain aigre et levé, qui fait brûler leurs cœurs les uns contre les autres. Mais tous doivent célébrer la fête de Christ, notre Pâque, avec le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. Ce pain sans levain de vie venu du ciel rend tous les cœurs et les âmes heureuses et joyeux, lumineuses et pleins d'allégresse pour servir et aimer Dieu, et pour s'aimer et se servir les uns les autres dans la vérité pacifique, et pour demeurer dans l'unité de l'Esprit de Dieu, qui est le lien de la paix, du Seigneur des seigneurs et du Roi des rois. Dans cet amour et cette paix, que Dieu Tout-Puissant garde et préserve tout son peuple, et le rende vaillant pour sa vérité sur la terre, afin de la répandre au loin par la doctrine, la bonne vie et la conduite. Amen. Tous les membres de Christ ont besoin les uns des autres, car le pied a besoin de la main, et la main a besoin du pied, l'oreille a besoin de l'œil, et l'œil de l'oreille. Ainsi tous les membres sont utiles dans le corps dont Christ est la tête, et la tête voit leur service, que nul donc ne méprise le moindre membre. Prenez garde de tenir en bas cet esprit terrestre avide, qui pille et convoite les richesses et les choses de ce monde, afin d'éviter de tomber dans la région basse comme les gentils ou les païens, et de perdre ainsi le royaume de Dieu qui est éternel. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu, et Dieu sait de quoi vous avez besoin, lui qui prend soin de tous, au ciel et sur la terre, grâce soit rendue à Dieu pour ses dons ineffables, tant temporels que spirituels. George Fox Tottenham, le 11 du 10 mois, 1690. Peu de temps après, je retournai à Londres et fus avec les amis aux réunions presque chaque jour. Lorsque j'eus été en ville près de 2 semaines, le sentiment des grandes duretés et des douloureuses souffrances que les amis avaient subies et subissaient en Irlande pesa sur moi avec force, et je fus porté à leur écrire l'épître suivante, comme une parole de consolation. Chers amis et frères dans le Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur, par son bras et sa puissance éternelle, a soutenu au travers de vos grandes souffrances, exercices, épreuves et difficultés, plus, je crois qu'on ne peut l'exprimer en ce pays, ce dont je suis très sensible, et le reste des amis fidèles qui ont pris part avec vous à vos souffrances, qui ne peuvent que souffrir avec le peuple du Seigneur qui souffre. Ma confiance a été dans le Seigneur, qu'il vous soutiendrait et vous soutiendra dans toutes vos souffrances, et qu'il préserverait tous les fidèles dans sa sagesse, afin qu'il ne donne à personne de juste occasion de les faire souffrir, et si vous souffriez à tort ou injustement, que le Dieu juste vous assisterait et vous soutiendrait, et qu'il récompenserait selon leurs œuvres ceux qui vous ont opprimés ou lésés. Et maintenant, mon désir est vers le Seigneur, que dans cette même sagesse sainte et céleste de Dieu, vous soyez tous préservés jusqu'à la fin de vos jours, à la gloire de Dieu, étant attentifs à sa main et à sa puissance qui soutiennent, lui qui est le Dieu tout suffisant pour fortifier, aider et ranimer au temps du besoin. que nul n'oublie les miséricordes et les bontés du Seigneur, qui durent à jamais, mais vivez toujours dans le sentiment de celles-ci. Et vraiment, amis, lorsque je considère la chose, c'est une grande miséricorde du Seigneur que vous n'ayez pas tous été engloutis, vu les esprits dont vous avez été entourés. Mais le Seigneur porte ses agneaux dans ses bras, et ils lui sont aussi chers que la prunelle de son œil, et sa puissance est sa haie autour de sa vigne de plantes célestes. Il est donc bon pour tous ses enfants de se remettre au Seigneur avec leur esprit et leur âme, leur cœur et leur souffle, lui qui est un gardien fidèle, qui ne sommeille ni ne dort jamais, mais qui est capable de vous préserver et de vous garder et de sauver jusqu'au bout, et nul ne peut toucher un seul cheveu de vos têtes à moins qu'il ne le permette pour vous éprouver, car il soutient toutes choses dans le ciel et sur la terre par la parole de sa puissance. Toutes choses ont été faites par Christ, et par lui toutes choses subsistent, remarquez, subsistent. Ainsi il a pouvoir sur tout, car tout pouvoir, au ciel et sur la terre, lui est donné, et à vous qui l'avez reçu, il a donné le pouvoir et l'autorité de devenir fils et filles de Dieu, ainsi membres vivants de Christ, la tête vivante, greffés en lui, en qui vous avez la vie éternelle. Christ la semence règne et sa puissance est sur tout, il écrase la tête du serpent, détruit le diable et ses œuvres, et était avant qu'il fût. Ainsi vous tous vivez et marchez en Christ Jésus, afin que rien ne soit entre vous et Dieu, sinon Christ en qui vous avez le salut, la vie, le repos et la paix avec Dieu. Quant aux affaires de la vérité dans ce pays et à l'étranger, j'entends dire qu'en Hollande et en Allemagne, et dans cette partie du monde, les amis sont dans l'amour, l'unité et la paix, et en Jamaïque, à la Barbade, à Nevis, à Antigua, au Maryland et en Nouvelle-Angleterre, je n'entends rien d'autre que les amis y sont dans l'unité et la paix. Que le Seigneur les préserve tous hors du monde, où il y a de la tribulation en Christ Jésus, en qui il y a paix, vie, amour et unité. Amen. Mon amour dans le Seigneur Jésus-Christ à tous les amis partout dans votre pays, comme si je les nommais. George Fox, Londres, le 10 du 11 mois, 1690. Décès et inhumation. Ainsi, lecteur, vous avez eu quelques récits de la vie et des voyages, travaux, souffrances, et des multiples épreuves et exercices de ce saint homme de Dieu, depuis sa jeunesse jusqu'à presque le temps de sa mort, dont lui-même tenait un journal, d'où les feuillets précédents ont été transcrits. Il reste à ajouter un récit du temps, du lieu et de la manière de sa mort et de son enterrement. Ce qui fut ainsi, le lendemain, après avoir écrit l'épître précédente aux Amis d'Irlande, il se rendit à la réunion de Gracéshire Street, qui était grande parce que c'était le premier jour, et le Seigneur lui permit de prêcher la vérité pleinement et efficacement, ouvrant beaucoup de choses profondes et importantes avec grande puissance et clarté. Après quoi, ayant prié et la réunion étant terminée, il alla chez Henry Gouldney, maison d'un ami à White Hart Court, près de la maison de réunion, et quelques amis l'accompagnant, il leur dit qu'il lui semblait sentir le froid frapper son cœur, en sortant de la réunion, ajoutant toutefois, « Je suis heureux d'avoir été ici. Maintenant je suis quitte, je suis pleinement quitte. » Dès que ses amis se furent retirés, il s'allongea sur un lit, comme il avait parfois coutume de le faire, par lassitude après une réunion, mais se releva bientôt, et peu après se recoucha se plaignant toujours du froid. Sa force diminuant sensiblement, il fut bientôt content d'être dans le lit, là il demeura dans un grand contentement et une grande paix, et il fut sensible jusqu'à la fin. Et comme tout au long de sa vie son esprit, dans l'amour universel de Dieu, était fixé et tendu vers l'exaltation de la vérité et de la justice, et vers la manifestation de la voie de la vérité et de la justice aux nations et aux peuples de lieux éloignés, ainsi maintenant, au temps de sa faiblesse extérieure, son esprit est attentif à cela et entièrement occupé de cela, et il fit appeler quelques amis particuliers, à qui il exprima sa pensée et son désir de répandre les livres des amis, et donc la vérité dans le monde. Beaucoup d'amis vinrent le visiter durant sa maladie, il leur disait « Tout va bien, la semence de Dieu règne sur tout, et sur la mort elle-même. Et bien que, disait-il, je sois faible de corps, la puissance de Dieu est sur tout, et la semence règne sur tous les esprits désordonnés. » Ainsi, demeurant dans une disposition d'esprit céleste, son esprit tout entier exercé vers le Seigneur, il devint de plus en plus faible en ses forces naturelles, et le troisième jour de cette semaine-là, entre 9 et 10 heures du soir, il quitta paisiblement cette vie dans la paix et s'endormit doucement dans le Seigneur, dont il avait prêché avec amour et puissance la vérité bénie à la réunion 2 jours auparavant. Ainsi acheva-t-il sa journée dans son fidèle témoignage, dans l'amour parfait et l'unité avec ses frères, et dans la paix et la bienveillance envers tous les hommes, le 13 du 11 mois, 1690, étant alors dans la 67e année de son âge. George Fox mourut le 13 janvier 1691, ce qui était le 11e mois de 1690 selon le calendrier julien alors en usage, et fut inhumé au cimetière Quaker de Bunhill Fields à Londres. Il était âgé de 66 ans. Le 16 du même mois, étant le 6e jour de la semaine, et le jour fixé pour ses funérailles, une très grande foule d'amis et d'autres personnes de diverses sortes s'assemblèrent à la maison de réunion de White Hart Court, près de Gracéshire Street, vers le milieu de la journée, afin d'accompagner son corps à la tombe. La réunion se tint environ 2 heures avec une grande et céleste solennité, manifestement accompagnée de la présence bénie du Seigneur et de sa puissance glorieuse, au cours de laquelle furent rendus divers témoignages vivants, issus d'un souvenir vivant et du sentiment du ministère béni de ce cher et ancien serviteur du Seigneur, de son entrée précoce dans l'œuvre du Seigneur lors de l'aurore de ce jour évangélique, de sa vie innocente, de ses longs et grands voyages et de ses travaux d'amour infatigable dans l'Évangile éternel. Après la fin de la réunion, son corps fut porté par des amis et accompagné par un très grand nombre jusqu'au cimetière des amis près de Bunhillfield, où après une attente solennelle devant le Seigneur, et plusieurs témoignages vivants rendus, recommandant l'assemblée à la direction et à la protection de cet esprit et de cette puissance divine par lesquels ce saint homme de Dieu avait été suscité, équipé, soutenu et préservé jusqu'à la fin de son jour, son corps fut décemment confié à la terre, mais sa mémoire demeura. Note: la lettre de Margaret Fell ci-dessous ne figurait pas dans le journal de 1831, et le témoignage de Thomas Elwood est une reprise d'une partie de son « Introduction à ce journal ». Ajout tiré du livre de Margaret Fell, « Zèle indompté, les lettres de Margaret Fell », lettre N157, aux amis et aux sœurs, 19 novembre 1691, et maintenant il est entré dans son repos et sa gloire céleste, où il vit à jamais, et son esprit vit avec nous. George Fox est mort à Londres le 13 janvier 1691. Il était entouré d'amis, notamment William Penn, qui écrivit aussitôt à Margaret : « Il m'appartient de vous annoncer de tristes nouvelles. Votre cher mari et mon bien-aimé et cher ami, George Fox, a achevé son glorieux témoignage. » Il y eut un grand deuil parmi les amis, pour le chef des Quakers, tandis qu'il se préparait pour les funérailles. La séance fut interrompue par les larmes et les sanglots d'hommes de la stature de William Penn et de George Whitehead, des personnes dont les émotions étaient d'ordinaire mieux maîtrisées. Plus de 4000 personnes assistèrent au service funèbre lui-même, et la procession funèbre mit plus de 2 heures à parcourir le mille jusqu'à Bunhillfield, le cimetière Quake, Ingle, p. 844-285. La lettre de Margaret Fell aux amis de Londres témoigne des liens étroits qui unissaient les femmes du mouvement. Margaret exprime sa gratitude pour les soins apportés à son mari et pour l'amour et la bonté qu'on lui a témoignés. « Mon très cher et tendre amour dans le Seigneur est chèrement rappelé à vous, comme si je vous nommais un par un. » Swarthmore, le 16 du 9 mois 1691, « Chers amis et sœurs dans le Seigneur, ce qui était au commencement est maintenant, et sera éternellement à jamais, c'est dans ce sentiment que je vous écris ces quelques lignes, reconnaissant votre tendre amour et votre sollicitude envers moi et mon cher mari, lorsqu'il était avec vous, dans son service et ses voyages pour le Seigneur. Quant à votre tendre soin et votre amour envers lui, vous en aurez une récompense éternelle. Maintenant, il est entré dans son repos et sa gloire céleste, où il vit à jamais, et son esprit vit avec nous. Chers amis, si nous demeurons dans son témoignage éternel, qu'il a publié au monde, nous vivrons pour Dieu. Plusieurs milliers sont rassemblés à Dieu par ce témoignage, et le seront jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu votre lettre bonne et chère, et j'en suis grandement consolée et satisfaite par l'amour qui s'y trouve. Je mets ma confiance dans le Dieu Tout-Puissant, si nous demeurons dans le même esprit, la même vie et la même puissance, et que nous y persévérions, nous serons préservés et gardés pour Dieu jusqu'à la fin et dans la fin. Maintenant, mes chers amis, mon très cher et tendre amour dans le Seigneur est chèrement rappelé à vous, comme si je vous nommais un par un. Votre tendre amour et votre bonté, lorsque j'étais avec vous, je ne puis les oublier. Que le Seigneur fasse durer son amour mutuel parmi nous, afin qu'aucun de nous ne se refroidisse, mais que nous vivions dans la chaleur du soleil de justice. Et là nous croîtrons et porterons du fruit pour Dieu, et nous serons pour lui des arbres de justice, la plantation du Seigneur, afin qu'il soit glorifié en nous et par nous. Chers amis, je ne suis pas insensible à votre grande sollicitude et à votre service pour le Seigneur et sa vérité éternelle. C'est pourquoi je vous conseille, dans la puissance du Seigneur, d'y persévérer et de vous y consacrer librement, dans la force et la sagesse de Dieu. Vous êtes assurés d'avoir consolation et satisfaction dès à présent, et à la fin, et une récompense éternelle et perpétuelle. Maintenant, je vous fais savoir que je vais bien dans le Seigneur, de toute manière, loué et honoré soit son saint nom. Mon fils et mes filles, leurs enfants et leurs familles vont tous bien. Et leur cher amour est chèrement rappelé à vous tous, comme nous sommes tous engagés envers vous, pour votre cher amour et votre bonté envers vous, pour votre cher amour et votre bonté envers nous. De votre chère amie et sœur dans le Seigneur, Margaret Fox de la Bibliothèque des Amis, vol, XI, lettre des premiers amis pp. 387-388 Londres, le 15 du 11e mois, 1690 à Renwick Howard, Thomas Green, Thomas Docrey, Richard Barrow, William Higginson et Thomas Withers. Mes chers amis et frères bien-aimés, avec lesquels ma vie est liée dans l'alliance de la lumière gracieuse et glorieuse de Dieu, en laquelle consiste notre vie et notre paix. Si nous gardons nos demeures et nos lieux d'habitation en elle, nous serons préservés près de l'océan de tout amour et de toute vie, et nous connaîtrons la source décelée et ses jaillissements bouillonnés dans nos propres seins, en laquelle nous pouvons boire ensemble un unique esprit, par lequel nous sommes scellés dans la jouissance de la puissance céleste qui sanctifie, dans le sentiment vivant et la vertu consolante de laquelle, selon la mesure, je vous estime chèrement tous. Eh bien, chers amis, avant que ceci ne vous parvienne, je conclus que vous aurez eu des nouvelles du départ de notre ancien ami et honorable aîné dans l'Église de Dieu, George Fox, qui a été aujourd'hui enterré, en présence d'une grande et vivante assemblée du peuple de Dieu, qui l'a accompagné jusqu'au cimetière, et l'on suppose qu'il y avait plus de 4000 amis. La maison de réunion de Gracechurch Street ne pouvait les contenir, pas plus que la cour devant la porte, beaucoup ne pouvaient s'approcher assez pour entendre les témoignages. De nombreux témoignages vivants, ouverts et puissants furent rendus dans la maison de réunion, et beaucoup aussi au cimetière, parmi de nombreux cœurs attendris, des yeux mouillés et des esprits contrits. Les amis de Londres ont fait preuve de beaucoup de discernement, ordonnant tout le passage et affaires s'y rapportant avec grande sagesse en tout point. Cette ville ayant 6 réunions mensuelles, 6 amis choisis furent nommés et désignés dans chaque réunion mensuelle pour porter le corps, et nul autre, et que ses parents marcheraient tous juste à côté du corps, et que tous les amis marcheraient d'un côté de la rue, 3 par 3 en rang, aussi serré qu'ils le pourraient, afin de laisser l'autre côté libre pour les citoyens et les carrosses qui vaquaient à leurs affaires. Le cimetière est un grand terrain, et pourtant il était tout à fait plein, et quelques gens du monde s'y trouvaient aussi. La dernière semaine, George Fox était à la réunion trimestrielle, à la réunion du matin du second jour, à la réunion pour les souffrances, et à 2 réunions de culte, outre la réunion du matin du premier jour, qui se tenait à la maison de réunion de Gracechurch Street. Le 7e jour, il vint loger chez Henry Gouldney, à White Hart Court, pour être prêt, au premier jour, de la réunion qu'il devait tenir, et il dit qu'il s'était aussi bien trouvé dans cette réunion qu'il l'avait été depuis longtemps. Pourtant, il commença à être malade le soir, vers la 5e heure de ce premier jour, et il partit avant la 10e heure du soir du 3e jour suivant. J'ai été avec lui la plupart du temps, il y prononça beaucoup de phrases vivantes et puissantes, qui attendrirent les personnes présentes. Il n'y eut sur lui aucun signe de grande douleur, et il ne se plaignit jamais. La manière de partir de Robert Wood et la sienne furent très semblables, car je les ai vus tous deux, seulement George ferma lui-même ses yeux, et son menton ne tomba jamais, ni n'eut besoin d'être lié, mais il reposait comme s'il s'était endormi, on aurait cru qu'il avait souri. C'était le corps le plus agréable que j'aie jamais regardé, et plusieurs centaines d'amis vinrent voir son visage, ayant presque 3 jours entiers pour le contempler avant que le cercueil ne soit cloué. Les amis portèrent le cercueil sur leurs épaules, sans bière, drap ni couverture, mais le bois naturel, pourtant le cercueil était très lisse et beau. Eh bien, amis, environ 2 heures ou moins avant sa mort, il me prit par la main et me dit de rappeler son amour aux amis là où je voyagerais. J'avais l'intention de quitter la ville le lendemain, après qu'il eût commencé à être malade, mais le voyant souffrant, c'était l'avis des amis que je reste et que je vois comment cela tournerait pour lui, et j'avais plus de liberté de rester que de partir. J'ai été heureux de voir une conclusion si céleste et harmonieuse que fit le cher George Fox. Le sentiment et la douceur de cela, je crois, ne me quitteront jamais, dans la vertu céleste de quoi, je désire me reposer et demeurer votre frère, Robert Baloupé. S. Je me dirige demain vers l'Oxfordshire. Je vais maintenant vous donner la liste des amis qui ont déclaré, et tels qu'ils ont parlé, l'un après l'autre, à savoir James Park, Robert Barrow, Ambrose Rigg, Joseph Batt, William Penn, Francis Camfield, Charles Marshall, John Taylor de York, Francis Stampé, George Whitehead, Stephen Crisp, et Thomas Green termina par une prière. Les amis qui parlèrent à la tombe furent les suivants, William Penn, Joseph Batt, George Whitehead, John Wharton et William Bingley. Je voudrais qu'une copie de ceci aille à Yalos et une autre à Candale. De la Bibliothèque des Amis, vol, XI, lettre des premiers amis, p. 389 Londres, le 15 du 11e mois, 1690, premier mois 1691. Cher ami John Herret, je vous écris pour vous faire savoir que cet ancien, honorable et digne homme, George Fox, a quitté cette vie. Il était à la réunion de Gracechurch Street le premier jour dernier, et rendit son témoignage parmi d'autres. Après la réunion, il fut pris de frissons de froid et alla de mal en pis, et s'affaiblit jusqu'au 3e jour dernier au soir, entre 9 et 10 heures, où il mourut. Dans sa faiblesse, il souhaita être rappelé à tous les amis, et conseilla et admonesta les amis de fuir vers la puissance de Dieu. Il mourut doucement et paisiblement, et fut sensible jusqu'à la fin. Après la réunion du 4e jour à Gracechurch Street, tous ou la plupart des amis du ministère présents s'allèrent dans une chambre toute proche, tant pour se consoler de la perte et de la mort de ce bon homme, que pour prendre soin de son enterrement, qui est ordonné depuis cette maison de réunion demain, 6e jour, vers 4 heures de l'après-midi. Dans la chambre étaient William Penn, Stephen Crisp, George Whitehead, John Taylor de York, William Bingley, John Wotton, Francis Tempé, John Field, Samuel Waldenfield, John Boucher et d'autres, et il n'y avait, si je me souviens bien, que trois d'entre nous qui n'étions pas prédicateurs. Pendant que nous étions assis ensemble dans une profonde considération de la perte de ce bon homme, la merveilleuse puissance de Dieu tomba sur tous ceux qui étaient dans la chambre, au point que pas un seul ne put se contenir, mais fut brisé sous le poids de cette gloire, si bien que, pendant un temps considérable, il n'y eut rien que de profonds soupirs, gémissements et larmes. Et après que tous se furent apaisés et que leurs esprits furent devenus tranquilles, plusieurs d'entre eux, sous ce grand sentiment, rendirent témoignage à son sujet, trop long pour être inséré ici. L'un dit, un vaillant est tombé en Israël aujourd'hui, et sa place y serait vacante si quelques fidèles ne venaient pas occuper ce poste glorieux où il était. Un autre, que c'était sa foi, et qu'il était avec lui, que cet esprit et cette puissance qui avaient demeuré en si grande mesure dans ce corps, se répandraient dans des milliers. Un autre rappela l'ancienneté de sa position, de son service et de sa fidélité jusqu'à la fin. Un autre dit qu'il était une étoile fixe dans le firmament de la gloire de Dieu, et qu'il y brillerait à jamais. J'espère ne jamais oublier ce jour, son souvenir est doux. Il est ordonné que les anciens et les vénérables des amis prennent le corps en premier, et s'y sont choisis et répartis dans chacune des 6 réunions mensuelles autour de Londres pour porter, dont je suis l'un pour notre quartier, et J. Bulliam, cette lettre est sans signature, et il est indiqué qu'elle doit être consignée dans un registre des amis à North Shield. Tiré de l'introduction de Thomas Elwood et de son hommage approprié à George Fox, il fut vaillant pour la vérité, hardi à l'affirmer, patient à souffrir pour elle, infatigable à y travailler, constant dans son témoignage pour elle, inébranlable comme un rocher. Il était profond en connaissance divine, clair dans l'ouverture des mystères célestes, simple et puissant dans la prédication, ferve dans la prière. Il était richement pourvu de sagesse céleste, prompt à discerner, solide en jugement, capable et prêt à donner, discret pour garder le conseil, aimant la justice, encourageant la vertu, la droiture, la tempérance, la douceur, la pureté, la chasteté, la modestie, l'humilité, la charité et le renoncement à soi-même en toutes choses, tant par la parole que par l'exemple. Il avait une physionomie agréable, une stature virile, un maintien grave, une conversation courtoise, une communication pondérée, un discours instructif, sans affectation dans ses paroles ni dans sa tenue. Un sévère réprimandeur des pécheurs durs et obstinés, un avertisseur doux et bienveillant envers ceux qui étaient sensibles et conscients de leurs manquements, peu enclins à ressentir les torts personnels, prompt à pardonner les injures, mais zélé et ardent lorsque l'honneur de Dieu, la prospérité de la vérité, la paix de l'Église étaient en jeu. Il était très tendre, compatissant et plein de pitié envers tous ceux qui étaient sous quelque affliction que ce soit, plein d'amour fraternel, plein de sollicitude paternelle. Car en effet, le soin des Églises de Christ pesait sur lui chaque jour, et il recherchait avec application leur prospérité et leur paix. Il était aimé de Dieu, aimé du peuple de Dieu, et ce qui n'était pas la moindre part de son honneur, la cible commune de l'envie de tous les apostats, dont il recherchait pourtant ardemment le bien. Il vécut assez longtemps pour voir le désir de son âme, la diffusion de ce principe béni de la lumière divine à travers de nombreuses nations européennes, et dans un certain nombre d'îles et de provinces d'Amérique, et le rassemblement de plusieurs milliers autour d'un établissement en cela, ce dont le Seigneur lui donna l'honneur d'être le premier publieur efficace dans ce monde de ces derniers temps. Et après avoir livré le bon combat, achevé sa course et gardé la foi, son âme juste, libérée du tabernacle terrestre, dans lequel il avait mené une vie exemplaire de sainteté, fut transporté dans ses demeures célestes, où Christ notre Seigneur est allé préparer une place pour les siens, pour y posséder cette couronne glorieuse de justice qui est réservée et qui sera donnée par le Seigneur, le juste juge, à tous ceux qui aiment son apparition. Les âges à venir et des peuples non encore nés le diront bien heureux, et béniront le Seigneur de l'avoir suscité, et nous aussi, nous serons bénis si nous marchons ainsi que nous l'avons eu pour exemple, car ce témoignage vit dans mon cœur, il vécut et mourut le serviteur du Seigneur. Thomas Elwood était un Quaker, ami de John Milton, auteur de Paradise Lost, et le principal chargé par Fox, de son vivant, de la préparation du journal à partir du journal manuscrit et des lettres de Fox. Hommage à Fox par l'éditeur du site, il existe de nombreuses preuves que Fox avait une mesure de Christ, que nous ne pouvons même pas imaginer sans pouvoir le voir et l'entendre, et ainsi entendre le Saint-Esprit parler à travers lui. Lire est bien, mais ce n'est pas du tout la même chose que d'entendre la parole de Dieu prononcée par l'Esprit de Dieu. Deux des nombreux exemples de la mesure de Christ chez Fox sont les paroles de deux géants Quakers, Edward Burroughs et Francis Raugill. Dans une lettre à Margaret Fell, Francis Raugill dit ceci, « Saluez-nous bien tendrement George Fox, une heure avec lui serait pour nous une grande joie. Alors qu'Edward Burroughs était à l'agonie dans la prison de Newgate, il dit « Si George Fox avait été avec moi ne serait-ce qu'une heure, je serais guéri ». Fox était hors de Londres à ce moment-là. Si vous lisez les lettres historiques des premiers Quakers sur ce site, vous verrez une estime sans pareille pour Fox de la part de tous. Elles ont été écrites par des personnes qui l'avaient entendu, qui avaient vu et écouté son autorité, sa mesure de Christ. Bien que Fox n'ait pas imposé son autorité, il avait une mesure de Christ qu'aucun autre des premiers Quakers n'avait. Sa vie est une démonstration immense de foi et de puissance. Comme l'a dit un autre grand serviteur du Seigneur, Isaac Pennington, « Et vous, amis, vous qui êtes faibles, bénissez Dieu pour les forts. Vous qui avez besoin d'un pilier sur lequel vous appuyez, bénissez Dieu qui a pourvu des piliers dans sa maison, et dans la crainte et sous la conduite de son esprit, usez de ces piliers, qui sont fidèles et ont Dieu la capacité, dans sa puissance et sa glorieuse présence avec eux d'aider à soutenir son édifice, tout comme ils avaient reçu du Seigneur la capacité de rassembler à lui. Celui qui méprise celui qui est envoyé, méprise celui qui l'a envoyé, et celui qui déprécie un don, une charge ou une œuvre que Dieu a accordée à quelqu'un, méprise la sagesse et la disposition du donateur. Sont-ils tous pères? Ont-ils tous vaincu l'ennemi? Ont-ils tous grandi dans la vie? Sont-ils tous des étoiles dans le firmament de la puissance de Dieu? Dieu a-t-il rendu tous égaux? N'y a-t-il pas différents états, différents degrés, différentes croissances, différentes places, etc.? Donc si Dieu a fait une différence et donné des degrés de vie et des dons différents selon son bon plaisir, quelle sagesse et quel esprit est-ce qui ne le reconnaît pas, mais voudrait rendre tous égaux? Ô mes amis, craignez devant le Seigneur, honorez le Seigneur dans ses manifestations et dans les différences qu'il a faites parmi les enfants des hommes et parmi son peuple. Il donna autrefois des prophètes, et le reste du peuple n'était pas leur égal. Il donna des évangélistes, des apôtres, des pasteurs, des docteurs, etc. Et les autres membres des églises n'étaient pas leurs égaux. Il a donné maintenant des pères et des anciens, et les petits-enfants et les jeunes gens ne sont pas leurs égaux. Ainsi en est-il, en vérité, de la part du Seigneur, et ce qui est de Dieu en vous le reconnaîtra ainsi. Veillez donc chacun à sentir et connaître sa propre place et son propre service dans le corps, et à être sensible aux dons, places et services des autres, afin que le Seigneur soit honoré en tout, et que chacun soit reconnu et honoré dans le Seigneur, et non autrement. Cela est difficile à accepter pour certains, mais l'Église de Dieu n'est pas une démocratie, et Dieu est un Dieu d'ordre, et l'ordre requiert une tête sur la terre. Comme Fox l'a montré, il ne donnait pas d'ordre aux autres, mais il fut plutôt le canal par lequel le Seigneur guida l'établissement d'une structure de gouvernement dans l'Église, avec des procédures et des politiques correspondantes. Fox révéla ensuite cette direction, que des personnes mûres reconnaissaient immédiatement comme une politique sage et digne. Il n'y a qu'un seul roi, et c'est Christ pour tous, mais parmi ses sujets, tous n'ont pas la même autorité ni la même responsabilité. William Catton, un jeune ministre Quaker, se lamentait de sa petite stature en Christ, comparée à celle de quelques anciens dignitaires Quakers qu'il avait observés, Fox l'ayant convaincu dès son jeune âge. Et le Seigneur donna à Catton cette compréhension classique. Le Seigneur me montra que ceux qui avaient beaucoup n'avaient rien en surplus, et que ceux qui avaient peu ne manquaient de rien, comme c'était chez les Israélites d'autrefois. Car pour les frères sages et éminents, qui avaient beaucoup reçu du Seigneur, il fallait noter qu'il leur était d'autant plus demandé, de sorte que, quelle que fût l'abondance qu'ils avaient, ils n'avaient rien en trop, sinon ce qu'ils devaient employer dans l'œuvre et le service de Dieu. Au milieu des années 1700, les Quakers avaient minimisé la contribution de George Fox à la fondation de la société. Ceux qui étaient alors dans la société n'avaient pas fait l'expérience des nécessités, du baptême de mort, de la crucifixion de l'esprit égoïste sur la croix intérieure du renoncement à soi, de l'obtention du même esprit qui guida les apôtres, de la régénération, de la sanctification, de l'union avec Christ et Dieu, et de l'entrée dans le royaume. Leur définition de la croix se limita au port de vêtements du XVIII siècle, au fait de dire « Thee is thou » et d'attendre en silence dans les réunions une fois par semaine. Cela les faisait paraître semblables, mais ils ne cherchaient pas de tout leur cœur, ni même ne comprenaient le but de la recherche. Sans l'esprit gouvernant leurs esprits, les Quakers commencèrent à ignorer les conseils de Fox et d'autres premiers Quakers, modifiant le gouvernement laissé derrière eux, voire Quaker Departure from the Truth pour plus. Ils conclurent à tort que Fox n'avait pas plus de mesure de Christ qu'eux-mêmes. En rabaissant Fox, ils commencèrent à mettre plutôt en avant les contributions des vaillants 60, bien que presque chacun des 60 ait été convaincu par Fox. Mais si vous le remarquez au fil de ses écrits sur le site, Fox était particulièrement tenu avec un amour et une affection sans égaux par chaque auteur Quaker, dont des dizaines sont cités. Je pense que des milliers de personnes ont grossièrement sous-estimé la mesure de l'Esprit de Christ qui demeurait avec Fox. Il existe de nombreuses lettres, mais très peu publié, qui montre que Fox était regardé par beaucoup d'autres d'une manière que je ne peux qu'imaginer, comme s'il l'avait fait pour Christ lui-même. Pourtant, même Margaret Fell et ses enfants le tenaient dans une estime que je qualifierais de révérentielle. En lisant les autres écrits des premiers Quakers sur ce site, vous remarquerez qu'il le désigne fréquemment comme « cher George Fox » ou « cher George », une distinction qui semble lui être réservée, ainsi ses pères dans le royaume avaient validé ses dons célestes et sa stature extraordinaire. Je crois que George Fox fut indiscutablement le plus grand homme à avoir vécu sur la terre depuis les apôtres, et dans la vie à venir, la vérité de cette conviction sera claire pour tous. Il marcha dans une innocence relative enfant, il chercha Dieu de tout son cœur à la fin de son adolescence, il n'avait pas de guide écrit comme celui qu'il nous a laissé, puis il exerça son ministère chaque jour de sa vie pendant les 48 années suivantes, il subit des persécutions inimaginables, et il bâtit la foi Quake de 1 à 650 000 rien qu'en Angleterre, foi qui manifestait la véritable nature de l'Église de Christ. Déprécier l'héritage de ses écrits, ses avertissements, ses encouragements, ses exhortations, ses réprimandes, ses témoignages, ses clarifications du salut, est une grave erreur pour chacun et pour tous. Ayant étudié pendant 25 ans les écrits de Fox inspirés par l'Esprit et son impeccable parcours, je suis reconnaissant pour sa mesure supérieure de Christ, me donnant l'espérance que par Christ, je pourrai moi aussi un jour jouir de la communion de Christ et du Père, dans le royaume des cieux, marchant et parlant d'une manière qui honore et glorifie mon Maître et mon Père céleste, comme l'ont fait des milliers de personnes qui l'écoutèrent lorsqu'il était vivant. Je conclurai par le résumé de William Penn, fondateur de la Pennsylvanie et puissant serviteur de Christ, qui décrivit Fox comme « civil au-delà de toutes les formes d'éducation » et dit que, dans sa prière, il était dans la disposition la plus impressionnante, vivante et révérencieuse que j'ai jamais ressentie ou contemplée. Penn définit les accomplissements supérieurs de George Fox avec cette épitaphe immortelle de sa vie « Beaucoup de fils ont agi avec vertu en ce jour, mais cher George, tu les surpasses tous », une épître du cher George Fox. Écrite de sa propre main, et laisser cacheter avec cette suscription, ne pas ouvrir avant le moment, laquelle, après son décès, ayant été ouverte, a été jugée convenable d'être imprimée, pour la réunion annuelle et celle du second jour à Londres, et pour tous les enfants de Dieu en tout lieu du monde. Paré de la part de George Fox ceci pour tous les enfants de Dieu partout, qui sont conduits par son esprit et marchent dans sa lumière, en laquelle ils ont vie, unité et communion avec le Père et le Fils, et les uns avec les autres. Tenez toutes vos réunions au nom du Seigneur Jésus, vous qui êtes rassemblés en son nom par sa lumière, sa grâce, sa vérité, sa puissance et son esprit, par lesquels vous sentirez sa présence bénie et rafraîchissante parmi vous et en vous, pour votre consolation et pour la gloire de Dieu. Et maintenant, amis, toutes vos réunions, tant d'hommes que de femmes, mensuelles, trimestrielles et annuelles, ont été établies par la puissance, l'esprit et la sagesse de Dieu, et en elle vous savez que vous avez senti sa puissance, son esprit et sa sagesse, et sa présence bénie et rafraîchissante parmi vous et en vous, pour sa louange et sa gloire et pour votre consolation, de sorte que vous avez été une ville située sur une montagne, qui ne peut être cachée. Et bien que mains esprits relâchés et indisciplinés se soient élevés par moments pour s'opposer à vous et à elle, par écrit et d'autres manières, vous avez vu comment ils ont été réduits à rien. Le Seigneur les a frappés et a mis leurs œuvres en lumière, et les a fait voir comme des arbres sans fruits, des puits sans eau, des étoiles errantes hors du firmament de la puissance de Dieu, et des vagues furieuses de la mer, rejetant leur boue et leur saleté, et beaucoup d'entre eux sont comme le chien retourné à son vieux vomi et la truie qui avait été lavée et qui s'est ensuite retournée vers la fange. Dieu et son peuple savent que tel a été l'état de beaucoup. C'est pourquoi, que tous demeurent fermes en Christ, votre tête, en qui vous êtes tous un, hommes et femmes, et connaissez son gouvernement, dont l'accroissement et la paix n'auront point de fin. Mais il y aura une fin au gouvernement du diable et à tous ceux qui sont hors de Christ, qui s'opposent à son gouvernement et à lui, dont le jugement ne tarde pas et dont la damnation ne sommeille point. C'est pourquoi dans la lumière, la vie, l'esprit et la puissance de Dieu et de Christ, vivez et marchez, ce qui est au-dessus de tout est la semence de cela, dans l'amour, dans l'innocence et dans la simplicité. Demeurez dans la justice et dans la sainteté, et demeurez dans sa puissance et dans le Saint-Esprit, dans lequel le royaume de Dieu subsiste. Tous enfants de la nouvelle et céleste Jérusalem, qui est d'en haut et est libre, avec tous ses saints enfants spirituels, gardez les yeux sur elle. Quant à cet esprit de rébellion et d'opposition qui s'est élevé autrefois et de nouveau maintenant, il est hors du royaume de Dieu et de la Jérusalem céleste, et il est pour jugement et condamnation, avec tous ses livres, ses paroles et ses œuvres. C'est pourquoi les amis doivent vivre et marcher dans la puissance et l'esprit de Dieu qui est au-dessus de cela, et dans la semence qui l'écrasera et le mettra en pièces. Dans cette semence, vous avez joie et paix avec Dieu, et puissance et autorité pour le juger, Et votre unité est dans la puissance et l'Esprit de Dieu, qui le juge. Tous les témoins de Dieu, dans son tabernacle, se dressent contre lui, et l'ont toujours fait et le feront toujours. Que nul ne vive pour soi, mais pour le Seigneur, comme ils mourront en lui, et recherchez la paix de l'Église de Christ, et la paix de tous les hommes en lui, car bienheureux les artisans de paix. Demeurez dans la sagesse pure, paisible et céleste de Dieu, qui est douce et facile à fléchir, pleine de miséricorde, tous vous efforçant d'être d'un même esprit, cœur, âme et jugement en Christ, ayant son esprit et sa pensée demeurant en vous, vous édifiant les uns les autres par l'amour de Dieu, qui édifie le corps de Christ, son Église, lui, qui en est la sainte tête. Gloire à Dieu par Christ, en ce siècle et dans tous les autres siècles, lui qui est le roc et le fondement, l'Emmanuel, Dieu avec nous, Amen. Il est au-dessus de tout, et il est le commencement et la fin. En lui vivez et marchez, en qui vous avez la vie éternelle, en lui vous me sentirez, et je vous sentirai. Tous enfants de la nouvelle Jérusalem, qui descendent en haut, la sainte cité dont le Seigneur et l'agneau sont la lumière, et qui est le temple, en elle ils renaissent de l'esprit, ainsi la Jérusalem d'en haut est la mère de ceux qui sont nés de l'esprit. Ceux qui viennent et sont venus à la Jérusalem céleste reçoivent Christ, et il leur donne le pouvoir de devenir fils de Dieu, et ils renaissent de l'esprit, ainsi la Jérusalem d'en haut est leur mère. Ceux-là viennent à la montagne céleste de Sion, et à la compagnie innombrable des anges, aux esprits des justes rendus parfaits, et à l'Église du Dieu vivant inscrite dans les cieux, et ils ont le nom de Dieu écrit sur eux. Ainsi voici une nouvelle mère, qui enfante une génération céleste et spirituelle. Il n'y a ni schisme, ni division, ni contestation, ni querelle dans la Jérusalem céleste, ni dans le corps de Christ, qui est composé de pierres vivantes, une maison spirituelle. Christ n'est pas divisé car en lui il y a paix. Christ a dit, « En moi, vous avez la paix ». Et il est d'en haut, et non de ce monde, mais dans le monde d'en bas, dans son esprit, il y a du trouble, c'est pourquoi demeurez en Christ et marchez en lui. Amen. George Fox, Jérusalem, était la mère de tous les vrais chrétiens avant l'apostasie, et depuis que les chrétiens extérieurs se sont morcelés en nombreuses sectes, ils ont acquis beaucoup de mères, mais tous ceux qui sont sortis de l'apostasie par la puissance et l'esprit de Christ, Jérusalem d'en haut est leur mère, et aucune au-dessous d'elle, elle nourrit tous ses enfants spirituels. George Fox, lu à la réunion annuelle à Londres, 1691. Lecteur, veuillez noter que les papiers et épîtres suivants, dont certains étant mentionnés dans le journal Vol 2P. 258, et y étant omis, sont jugés à propos d'être insérés ici, et ils sont comme suit, un récit de la propagation de la vérité, et de l'opposition des puissances qui existaient alors, écrit par George Fox, en l'année 1676. La vérité s'éleva d'abord parmi nous, de sorte que nous devînmes un peuple pour le Seigneur, dans le Leicestershire en 1644, dans le Warwickshire en 1645, dans le Nottinghamshire en 1646, dans le Derbyshire en 1647, et dans les comtés adjacents en 1648, 1649 et 1650, dans le Yorkshire en 1651, dans le Lancashire et le Westmorland en 1652, dans le Cumberland, le Durham et le Northumberland. En 1655, beaucoup passèrent au-delà des mers, où la vérité s'éleva aussi, et en 1656, elle éclata en Amérique et en beaucoup d'autres lieux. Dans l'autorité de cette vérité divine, les amis supportèrent toutes les cruautés et souffrances qui leur furent infligées par le long parlement, jusqu'à la saisie des biens personnels, l'emprisonnement et la mort, et par-dessus tous les reproches, mensonges et calomnies, de même que celles du temps d'Oliver Cromwell, et toutes les lois faites par lui et son parlement, son fils Richard après lui, et le comité de sûreté, et ensuite ils résistèrent et survécurent à toutes les lois et proclamations depuis 1660, lorsque le roi revint. Les amis n'ont jamais craint leur loi, prison, geôle, maison de correction, bannissement, ni saisie de biens personnels, non, ni même la perte de la vie. Et il n'y eut jamais de persécution qui survint sans que nous voyions comment elle tournerait en bien. Et il n'y eut jamais de prison où je fusse, ni de souffrance, si ce n'était pour faire sortir des multitudes de prison. Quoique ceux qui emprisonnaient la vérité éteignaient l'esprit en eux-mêmes, l'emprisonneraient et l'éteindraient aussi hors d'eux, de sorte qu'il y eut un temps autant de personnes. Et après le retour du roi, beaucoup d'amis souffrirent grandement parce qu'ils ne voulaient pas boire à sa santé ni dire « Dieu bénisse le roi », de sorte que beaucoup d'amis furent en danger de mort de la part de gens grossiers, prêts à les transpercer de leurs épées pour ce refus, jusqu'à ce que le roi publia une proclamation contre le fait de boire des santés. Car nous étions et sommes contre le fait de boire des santés et contre tout excès, tant avant son retour qu'après. Nous désirons le bien du roi et que la bénédiction de Dieu vienne sur lui et sur tous ses sujets et sur tous les peuples à la face de la terre, mais nous désirions que l'on ne boive pas à la santé du roi, mais qu'on le laisse avoir sa santé et tous les autres aussi, et que l'on boive seulement pour sa propre santé et par nécessité. Car cette manière de boire des santés, et jusqu'à l'excès n'était ni pour la santé du roi, ni pour la leur, ni pour celle d'aucun autre, cet excès engendrait souvent querelle et destruction mutuelle. car ils détruisaient la création et les uns les autres, et cela n'était ni pour la prospérité du roi, ni pour sa santé, ni pour son honneur, mais pouvait l'attrister de voir les créatures et ses sujets détruits, et ainsi la puissance du Seigneur nous donna la domination sur cela aussi, et sur toutes nos autres souffrances. Mais oh ! Le nombre de ceux qui souffrirent au jour du Commonwealth et d'Oliver Cromwell, et depuis, surtout ceux qui furent traînés devant les tribunaux pour n'avoir pas payé les dîmes, pour avoir refusé de prêter serment dans les juries, pour n'avoir pas ôté leur chapeau, et pour être allés aux réunions le premier jour, sous prétexte de violer le sabbat, et aux réunions les autres jours de la semaine, eux qui furent maltraités tant dans les réunions que sur les grands chemins. Oh, quelle grande souffrance nous avons alors endurée pour ces actes! Car parfois ils conduisaient les amis par troupeaux dans les prisons comme des moutons dans leurs enclos, les retenaient le premier jour, leur prenaient leurs chevaux, et les gardaient pour une prétendue violation de leur sabbat, tandis qu'eux-mêmes allaient en carrosse et sur leurs gras chevaux aux maisons à clocher, et pourtant punissaient les autres. Beaucoup d'amis furent chassés de leurs maisons et de leurs appartements habituels, parce que, en obéissance au commandement de Christ et de son apôtre, ils ne pouvaient jurer, et comme ils se rendaient aux réunions, ils furent lapidés dans les rues et autrement cruellement maltraités. Beaucoup furent condamnés à de lourdes amendes, et restèrent longtemps en prison pour n'avoir pas ôté leur chapeau, amende que les amis ne purent jamais payer, leur conscience l'interdisant, pourtant on les garda en prison jusqu'à ce qu'on eût satisfait sa propre volonté, et à la fin on les fit sortir, après les avoir gardés un an ou plus en prison. J'ai publié beaucoup de livres contre les dîmes, montrant comment le sacerdoce qui les percevait avait été changé, et que Christ envoya ses 12, puis 70 disciples, leur disant « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Ainsi, tous ceux qui n'obéissent pas à la doctrine et au commandement de Christ comme énoncé, nous ne pouvons les recevoir. Je fus aussi poussé à publier plusieurs livres contre le serment, afin que notre oui et notre non soient acceptés au lieu d'un serment, et si nous rompions notre parole, que nous subissions la même peine que ceux qui violaient leur serment. Et en Jamaïque, le gouverneur et l'Assemblée accordèrent la chose, elle est aussi accordée en quelques autres lieux, et plusieurs membres du Parlement en Angleterre en ont reconnu le caractère raisonnable. Lorsque les magistrats modérés virent notre fidélité dans le oui et le non, tant avant qu'après le retour du roi, ils mettaient les amis en charge sans serment. Mais les magistrats cruels et envieux infligeaient des amendes aux amis pour en tirer de l'argent, bien qu'ils ne pussent en payer par conscience. Ainsi la puissance du Seigneur nous a portés à travers tout, et au-dessus de tout, pour sa gloire et sa louange éternelle. Car la puissance de Dieu a été notre, et notre mur est notre gardien, le conservateur de ses plantes et de sa vigne, nous qui n'avons pas eu l'épée et le bâton des magistrats pour nous aider, ni jamais mis notre confiance dans le bras de la chair, mais avons avancé sans ces choses, ni la bourse de Judas pour prêcher la parole de vie, qui était au commencement avant qu'ils fussent, laquelle parole réconcilie avec Dieu. Et des milliers ont reçu cette parole de réconciliation, et renaissent de la semence immortelle, par la parole de Dieu, et se nourrissent du lait de la parole, qui vit et demeure à jamais. Beaucoup ont souffert la mort pour leur témoignage, en Angleterre et au-delà des mers, tant avant qu'après le retour du roi. Ce qu'on peut voir dans un mémoire présenté au roi et aux deux chambres du Parlement, étant une relation brève, simple et véridique des récentes et tristes souffrances du peuple de Dieu, appelé par dérision Quakers, pour avoir rendu un culte et exercé une bonne conscience envers Dieu et les hommes. Pour cette raison, 89 ont souffert jusqu'à la mort, dont 32 sont morts avant l'entrée du roi en Angleterre, et 57 depuis, par dure captivité et traitement cruel. 43 sont morts dans la cité de Londres et à Southwark depuis la loi faite contre les réunions, vers 1661, dont un compte plus particulier fut donné avec les noms des victimes au roi et au parlement vers 1663. De ses vrais disciples, Jésus a dit « Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Jean 15-20. Au temps de Fox, il y eut 5 gouvernements en Angleterre, Charlie et Oliver Cromwell, Charlie, Jackie et Guillaume et Marie. Sous le seul règne de Charlie, 13 562 Quakers furent emprisonnés, 338 moururent des suites des blessures infligées lors des réunions en prison, et 198 furent envoyés en esclavage au-delà des mers. Source, Catholique Encyclopédia. Sous les 4 premiers souverains, les Sufferings de Bess comptent 869 Quakers morts en prison. Lorsqu'on les envoyait en prison, même leurs enfants étaient vendus comme esclaves. D'innombrables autres virent leurs biens meubles et immeubles saisis comme butin à prendre par les tribunaux, après condamnation pour refus de prêter serment, défaut d'ôter leur chapeau au tribunal, déplacement le dimanche, défaut d'assister aux offices religieux approuvés par l'État, défaut de payer les dîmes aux paroisses approuvées par l'État, et pour s'être réunis dans un culte non approuvé par le gouvernement. Et bien que beaucoup de lois aient été conçues contre nous, aucune d'elles ne pouvait jamais nous atteindre à juste titre, étant tordus et mal appliqués dans leur exécution par nos adversaires, ce que certains ont été amenés à reconnaître. toutes ces lois qui furent faites, et le serment pour lequel il nous emprisonnait parce que, en obéissance au commandement de Christ Jésus, nous ne pouvions jurer du tout, n'était pas à l'origine destiné contre nous, et pourtant nous avons souffert de la part des divers pouvoirs et de leurs lois, tant la saisie de biens personnels que l'emprisonnement jusqu'à la mort. Et le gouverneur du château de Douvres, lorsque le roi lui demanda s'il avait dispersé toutes les réunions des sectaires, répondit qu'il l'avait fait, mais les réunions des Quakers, le diable lui-même ne le pouvait, car s'il les emprisonnait et dispersait leurs réunions, ils se réuniraient de nouveau, et s'il les battait, les assommait ou en tuait quelques-uns, tous comme un seul homme se réuniraient et ne résisteraient pas non plus. Ainsi la puissance du Seigneur les soutenait et les gardait au-dessus de leurs persécuteurs, et les amena à justifier notre patience et notre nature d'agneau. C'était vers 1671. Depuis le retour du roi, trois lois ont été faites contre nous, outre les proclamations, par lesquelles beaucoup ont souffert l'emprisonnement et le bannissement, et beaucoup jusqu'à la mort. Et pourtant, malgré toutes ces lois et proclamations, persécutions, souffrances et bannissements, les amis fidèles sont aussi frais que jamais dans la puissance du Seigneur, et vaillants pour son nom et sa vérité. Quand le roi revint, certains furent faibles et prêtèrent serment, mais après l'avoir fait, ils furent très tourmentés d'avoir désobéi au commandement de Christ et de l'apôtre Jacques, et ainsi ils allèrent vers les magistrats, se condamnèrent eux-mêmes et offrirent d'aller en prison. Ainsi le Seigneur, dans sa puissance éternelle, a été le soutien et l'appui de son peuple, et sa semence règne encore, sa vérité est au-dessus de tout, et se répand abondamment jusqu'à cette année 1676. Un avertissement aux magistrats et au peuple de la ville d'Oldenbourg. Amis, avez-vous vu et ressenti les jugements de Dieu sur votre ville, le Seigneur envoyant la foudre du ciel, qui l'a détruite et brûlée? Comme je passais par votre ville un premier jour de la semaine, que vous appelez votre sabbat, j'ai vu des gens boire, des soldats jouer au jeu de la planche, et d'autres avec leurs boutiques ouvertes, faisant commerce lorsqu'ils auraient dû attendre Dieu et l'adorer, et votre peuple était léger et vain, sans aucun sentiment des jugements de Dieu, ni repentance. Oh, repentez-vous donc, de peur que le Dieu qui voit toutes vos actions et est au-dessus de tout, n'amène sur vous un jugement prompt dans sa colère, sa fureur et son indignation. Repentez-vous et rejetez toutes sortes de mal, de méchanceté, d'impiété et d'injustice, car le jour du Seigneur viendra sur tous ceux qui font le mal, sur tous les ouvriers d'iniquité. Ce jour puissant du Seigneur les découvrira tous, et brûlera comme un four, il consumera tous les orgueilleux et les méchants, et ne leur laissera ni racines ni branches. C'est pourquoi, vous tous magistrats, prêtres et gens du peuple, cherchez en vous-même pour trouver la cause, et quel mal vous avez commis, qui a attiré sur vous et sur votre ville la colère, la vengeance et les jugements de Dieu, dans l'incendie qui l'a ravagé. Que tous reviennent, et viennent à la lumière de Christ dans vos cœurs, à l'Esprit de Dieu, à la grâce et à la vérité dans vos cœurs, qui viennent par Jésus-Christ, afin qu'avec cela vous puissiez sonder vos cœurs. N'attristez pas, n'irritez pas et n'éteignez pas le bon Esprit de Dieu dans vos cœurs. Ne marchez pas malgré l'esprit de grâce, et ne vous en détournez pas pour tomber dans la débauche, tout en faisant profession de Dieu et de Christ en parole, lorsque vos cœurs sont loin, vivant dans les plaisirs et la licence sur la terre, vous livrant à des divertissements, tuant le juste, crucifiant de nouveau Christ en vous-même et l'exposant à l'opprobre, déshonorant ainsi Dieu, Christ et le christianisme, tout en faisant profession et commerce des Écritures. Cessez de vous fier à l'homme, dont le souffle est dans ses narines, et tournez-vous vers le Seigneur, vous toutes les extrémités de la terre, et soyez sauvés. Car le Seigneur Dieu du ciel et de la terre est venu enseigner lui-même le peuple par sa lumière, son esprit, sa grâce et sa vérité, et le détourner de tous les docteurs du monde. Dieu a suscité Christ Jésus, son prophète, que les peuples doivent écouter, et il a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et Christ a dit, « Apprenez de moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a de salut sous tout le ciel par aucun autre nom que par le nom de Jésus qui a dit, « Je suis le bon berger et j'ai donné ma vie pour mes brebis entendent ma voix et me suivent, et ne suivront pas le mercenaire, car Christ les nourrit dans les pâturages de la vie, qui ne se flétriront jamais. » Dieu a oint Christ Jésus pour prêcher, si vous voulez l'entendre, et Dieu a donné Christ pour conseiller et pour guide, si vous voulez être conduits et conseillés par lui, et Dieu a donné Christ pour évêque afin de veiller sur vous, et pour roi afin de régner sur vous, si vous voulez être surveillés et gouvernés par lui. Vous qui ne voulez pas que Christ règne sur vous, lui qui n'a jamais péché, et dans la bouche duquel aucune fraude n'a été trouvée, vous pouvez lire dans le Nouveau Testament la sentence qu'il prononce sur de tels. Christ n'est-il pas un maître suffisant, lui dont le sang a été versé pour vous, et qui a goûté la mort pour chaque homme? Christ ne dit-il pas à ses ministres, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement », et l'apôtre n'a-t-il pas dit, « Nous ne convoitons l'or, ni l'argent, ni les vêtements de personne », ils travaillaient de leurs mains, et annonçaient l'Évangile gratuitement. ce qu'on appelle ministres parmi vous ont-ils fait de même, et gardé ce commandement de Christ Jésus, qu'on les examine, et qu'ils s'examinent eux-mêmes. N'avez-vous pas lavé vos dehors, mais regardez au-dedans avec la lumière et l'Esprit de Christ Jésus, et voyez si vos dedans ne sont pas noirs et souillés. Car Christ Jésus, qui éclaire tout homme et toute femme dans le monde de la vie qui est en lui, a dit, « Croyez en la lumière, afin que vous deveniez enfants de la lumière. » Par la lumière vous pouvez voir toutes les œuvres mauvaises et impies que vous avez commises, toutes les paroles impies que vous avez prononcées, et toutes les pensées impies que vous pensez, afin de vous en détourner vers Christ d'où vient la lumière, lui qui est votre sauveur et rédempteur, qui vous a donné une lumière pour voir votre péché, et que vous êtes mort en Adam, afin qu'avec la même lumière vous voyez Christ, l'Esprit vivifiant, qui vous rend vivant pour Dieu et vous sauve de votre péché. Mais si vous haïssez la lumière, qui est la vie en Christ, le prince de la vie, et aimez les ténèbres et le prince des ténèbres plus que la lumière ou la vie en Christ, parce qu'elle vous reprend, Christ vous dit, cette lumière sera votre condamnation. Jean 3, 19-20. Soyez donc avertis maintenant en votre jour, tant que vous en avez le temps, tournez-vous vers le Seigneur. N'éteignez pas l'Esprit du Père, par lequel il attire au Fils, et ne haïssez pas la lumière de Christ, car si vous le faites, vous haïssez la vie en Christ, et demeurez ainsi sous la condamnation de Dieu et de Christ avec la lumière, lui qui parle maintenant à son peuple par son Fils, comme au jour des apôtres. Le même Dieu, qui parlait par les prophètes au Père, et parlait à Adam et Ève dans le paradis, et heureux auraient été Adam et Ève, et les Juifs, et tous les chrétiens, s'ils étaient demeurés auprès de ce parleur, et n'avaient pas suivi le serpent, ce faux parleur, et ses instruments. Et maintenant Dieu est le vrai parleur par son Fils, qui écrase la tête du serpent, le faux docteur, la tête de toutes les fausses voies, faux prophètes, fausses églises et fausses religions et cultes. Ainsi Dieu, en Christ, ramène les peuples à la religion pure et sans souillure, qui les gardera des tâches du monde dans la voie nouvelle et vivante, Christ Jésus, et vers l'Église en Dieu, dont Christ est la tête, comme au jour des apôtres, et vers l'adoration de Dieu en esprit et en vérité, ce culte que Christ a établi il y a plus de 1600 ans. C'est pourquoi tous les peuples doivent venir à la grâce et à l'esprit de vérité dans leur propre cœur, pour connaître le Dieu de vérité, qui est esprit, et l'adorer, le servir, l'honorer et glorifier le Dieu vivant en esprit et en vérité, lui qui est au-dessus de tout, et digne de tout, béni à jamais. Amen. Vous magistrats et officiers, lisez ceci dans toutes vos assemblées, et faites en sorte que tous vos prêtres le lisent dans leurs églises, afin que, vous et tout le peuple puissiez entendre et craindre le Dieu du ciel, comme vous en répondrez au grand et terrible jour du jugement et de la vengeance du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ceci est par amour pour vos âmes et pour votre bien temporel et éternel. George Fox, Amsterdam, le 19 du 7 mois, 1667, une épître concernant le vrai jeûne, la vraie prière, le vrai honneur et contre la persécution et pour la vraie liberté en Christ Jésus, afin que tous prennent garde que l'apôtre n'ait pas travaillé en vain pour vous, tandis que vous observez des jours, des mois, des temps, des fêtes et des années, et que vous retombez sous les principes appauvris du monde et sous le joug de la servitude de nouveau, et que vous y amenez et y contraignez les gens. Où donc Christ ou ses apôtres ont-ils jamais commandé à des croyants ou à des chrétiens d'observer des jours saints, jours fériés ou des jours de fête? Voyons où il est écrit dans le Nouveau Testament, dans les quatre évangélistes, les épîtres ou l'Apocalypse, que Christ ou ses apôtres aient jamais ordonné aux chrétiens d'observer le temps appelé Noël, ou un jour pour la naissance de Christ, ou d'observer le temps appelé Pâques, ou la Pentecôte, ou les jours de Pierre, de Paul, de Marc ou de Luc, ou celui de quelque autre saint. Vous qui professez être des églises réformées d'avec les papistes, les juifs et les païens, et avoir les Écritures pour règle, et qui êtes des adhérents de la Nouvelle Alliance, où prouvez-vous, par le Nouveau Testament, que les apôtres et l'Église primitive aient pratiqué ou imposé quoi que ce soit de tel, ou que Christ et ses apôtres aient donné aux Églises un tel commandement, qu'elles devraient pratiquer et observer de tels jours. Voyons où ce commandement est écrit. L'apôtre ne disait-il pas aux Galates, au 4e chapitre, « Mais maintenant, après avoir connu Dieu, ou plutôt après avoir été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner aux principes faibles et appauvris du monde, auxquels vous voulez de nouveau être asservis? Vous observez des jours, des mois, des temps et des années, je crains pour vous, je crains d'avoir travaillé pour vous sans profit. » Et au 3e des Galates il est dit, « Aux Galates insensés, qui vous a ensorcelé, afin que vous n'obéissiez pas à la vérité. » Et au 5e des Galates, l'apôtre les exhorte à demeurer fermes dans la liberté dont Christ les a rendus libres, et il dit encore, « Ne vous laissez pas de nouveau enlacer par le joug de la servitude. » Cela ne montre-t-il pas qu'il y avait des docteurs qui entraînaient l'Église des Galates vers ces principes appauvris du monde et les ramenaient de nouveau en servitude, dans l'observance des jours, des mois, des temps et des années? L'œuvre de l'apôtre était de les faire sortir de ces servitudes et de ces principes appauvris du monde. C'est pourquoi, lorsqu'ils retournaient à l'observance des jours, des mois, des temps et des années, ils craignaient d'avoir travaillé pour en vain, et il les exhorte à demeurer fermes dans la liberté dont Christ Jésus les a rendus libres, et ne pas se laisser de nouveau enlacer par le joug de la servitude, et il signifie encore qu'ils avaient été autrefois enlacés par ce joug de la servitude et ses principes appauvris du monde. Mais oh, comme ceux qu'on appelle chrétiens, depuis les jours des apôtres, sont retournés sous ce joug de la servitude et ses principes appauvris du monde, dans l'observance des jours, des mois, des temps et des années, que leur pratique le déclare. Non, les papistes et les protestants ne contraignent-ils pas les gens à observer des jours, des mois et des temps? Et dès lors, le labeur et le pénible exercice de l'apôtre donné à la chrétienté n'est-il pas en vain? Lui qui visait à faire sortir les gens de tels principes appauvris du monde et de ce joug de la servitude, que la loi exigeait, afin qu'ils puissent demeurer fermes dans la liberté dont Christ les a rendus libres, et ne pas se laisser de nouveau enlacer par le joug de la servitude. C'est Christ qui a rendu et rend son peuple libre de ses principes appauvris du monde, éléments misérables, c'est pourquoi les rachetés doivent demeurer fermes dans cette liberté dont Christ les a rendus libres, tous les vrais chrétiens doivent demeurer fermes dans cette liberté. Ils sont rendus libres par Christ, et non par l'homme, car l'homme, sans l'esprit et la pensée de Christ, cherche à forcer et à contraindre les disciples de Christ, ceux qu'il a rendus libres du joug de la servitude, à des choses extérieures que la loi commandait, à l'observance des jours, des mois, des temps, des fêtes et des années. De tels principes faibles et appauvris du monde, ceux qui connaissent Dieu, ou sont connus de Dieu et de Christ, doivent demeurer fermes dans leur liberté, et ne pas retomber sous le joug de la servitude ni s'y enlacer de nouveau, puisqu'il les a rendus libres. Car ceux qui sont dans ces choses, et voudraient y forcer les autres, se sont éloignés de ce qui donne la connaissance de Dieu, et n'ont pas demeuré fermes dans la liberté dont Christ a rendu et rend libre. Concernant la prière, nous ne lisons jamais que Christ ou ses apôtres aient cherché par la force à contraindre qui que ce soit à jeûner ou à prier avec eux. Mais Christ leur enseigna comment ils devaient prier, et à se distinguer des hypocrites. Ses paroles sont les suivantes. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des hommes, mais quand vous priez, entrez dans votre chambre, et après avoir fermé la porte, priez votre Père dans le secret, et votre Père, qui voit votre prière secrète, vous récompensera ouvertement. Mais quand vous priez, n'usez pas de vaines redites, comme les païens, car ils pensent qu'ils seront exaucés à cause de la longueur de leurs paroles. Ne priez pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Comme les apôtres et les saints faisaient, ainsi faisons-nous. Nous prions en secret, et nous prions en public, comme l'Esprit nous donne l'expression, lui qui aide nos infirmités, comme les apôtres et les vrais chrétiens priaient. De cette manière nous prions pour nous-mêmes, et pour tous les hommes grands et petits. Concernant le jeûne, Christ a dit, « De plus, quand vous jeûnez, n'ayez pas, comme les hypocrites, un visage triste, car ils se rendent le visage méconnaissable, afin de paraître aux hommes qu'ils jeûnent. Mais quand vous jeûnez, soyez joyeuses et lavez votre visage, afin de ne pas paraître aux hommes jeûnés, aux hommes vous jeûnez en secret, de sorte que seul votre Père le sache, et votre Père, qui voit tout, vous récompensera ouvertement. » Vous pouvez voir en Ésaïe 58 ainsi quel est le vrai jeûne que le Seigneur exige, où il est dit au prophète, « Crie à pleine voix, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et déclare à mon peuple sa transgression, et à la maison de Jacob ses péchés. Pourtant ils me recherchent chaque jour, et prennent plaisir à connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné l'ordonnance de son Dieu. Ils me demandent des ordonnances de justice, ils prennent plaisir à s'approcher de Dieu. Pourquoi avons-nous jeûné, disent-ils, et tu ne le vois pas? Pourquoi avons-nous affligé notre âme, et tu ne le sais pas? Voici, au jour de votre jeûne, vous recherchez votre plaisir et exigez tous vos travaux. Voici, vous jeûnez pour créer les disputes et pour frapper du poing avec méchanceté. Vous ne jeûnerez pas comme vous le faites aujourd'hui pour faire entendre votre voix en haut. Est-ce là le jeûne que j'ai choisi? Un jour pour qu'un homme afflige son âme, est-ce courber sa tête comme un roseau? Et étendre sous lui le sac et la cendre, appellerez-vous cela un jeûne, et un jour agréable au Seigneur? N'est-ce pas ici le jeûne que j'ai choisi, dit le Seigneur, détacher les liens de la méchanceté, délier les pesants fardeaux, renvoyer libres les opprimés, et rompre tout joug? Ainsi, ce jeûne que le Seigneur exige n'est pas d'imposer des jougs, d'opprimer et de charger de lourds fardeaux, ni de resserrer les liens de la méchanceté, mais de délier et de briser ces choses. Plus loin, concernant le vrai jeûne que le Seigneur exige, n'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, et faire entrer dans ta maison les pauvres sans asile? Quand tu vois un homme nu, le couvrir, et ne pas te dérober à ta propre chair, gardez-vous ce vrai jeûne. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, ta justice ira devant toi, la gloire du Seigneur sera ta récompense. Alors tu appelleras, et le Seigneur répondra, tu crieras, et il dira « Me voici ». si tu ôtes du milieu de toi les jougs, cesse d'accuser et de proférer des paroles vaines, si tu donnes ton âme à celui qui a faim, et rassasies l'âme affligée, alors ta lumière se lèvera dans l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. Et le Seigneur te conduira continuellement, et rassasiera ton âme dans la sécheresse, et fortifiera tes os, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Voici la pratique du vrai jeûne que le Seigneur exige de son peuple, et à ceux qui observent ce jeûne, le Seigneur a dit, « Quand ils appellent, il répondra. » Pouvez voir quel glorieux et heureux réconfort le Seigneur accorde à ceux qui gardent ce vrai jeûne, mais ceux qui jeûnent pour créer les disputes, et pour frapper du poing avec méchanceté, pour faire entendre leur voix, pour affliger leur âme un jour, pour courber leur tête comme un roseau, et ne délient pas les liens de la méchanceté, ne défont pas tout lourd fardeau, ne brisent pas tout joug et ne renvoient pas libres les opprimés, qui ne partagent pas leur pain avec celui qui a faim, ne vêtent pas le nu et ne font pas entrer le pauvre dans leur maison. Ils se montrent aux hommes avec leur visage défiguré, la tête baissée comme un roseau pendant un jour, comme les hypocrites pour jeûner, ainsi que Christ le dit en Matthieu 6:16-18. N'est-ce pas le commandement de Christ que dans leur jeûne ils ne paraissent pas aux hommes jeûner? Et maintenant, vous qui voudriez nous forcer à fermer nos boutiques les jours de jeûne, ou pendant un jour, ce jeûne ne paraît-il pas aux hommes? Et n'est-ce pas là le jeûne que le Seigneur, dans Ésaïe, a dit ne pas accepter? Car il a dit, est-ce là le jeûne que j'ai choisi? Un jour pour qu'un homme afflige son âme et courbe sa tête comme un roseau. Appellerez-vous cela un jeûne, et un jour agréable au Seigneur? Ésaïe 58:5. C'est pourquoi tout le peuple de Dieu doit garder le vrai jeûne du Seigneur, loin des débats et des querelles et des points de méchanceté. Ce jeûne qui brise les liens de la méchanceté, défait tout lourd fardeau, rompt tout joug, renvoie libre les opprimés, partage le pain avec celui qui a faim, vêt le nu, et fait entrer dans sa maison le pauvre rejeté. Quiconque garde ce vrai jeûne verra sa santé croître, et lorsqu'ils appellent, le Seigneur les entendra, il les guidera continuellement, rassasira leur âme dans la sécheresse, fortifiera leurs os, et ils seront comme un jardin arrosé, et comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Or vous qui ne gardez pas ce vrai jeûne, quand vous invoquez le Seigneur lors de vos propres jours de jeûne, le Seigneur vous répond et les dit-il, « Me voici, le Seigneur vous guide-t-il continuellement, vos os sont-ils fortifiés par lui, et vos âmes rassasiées dans la sécheresse ?» Êtes-vous comme un jardin arrosé et comme une source dont les eaux ne tarissent pas? Vous qui ne gardez pas ce vrai jeûne, ne manquez-vous pas de ces eaux qui ne tarissent pas? Ainsi vos âmes ne sont pas rassasiées dans la sécheresse, mais vos os sont maigres, et vous n'entendez pas la voix du Seigneur, qui a dit, « Me voici, ainsi vous perdez l'héritage de Jacob, et ne montez pas sur les hauts lieux, mais vous tombez au-dessous. » C'est pourquoi, que tout homme et toute femme ferme son cœur à toutes sortes de mal, quel qu'il soit, et ne fasse pas commerce avec les marchands de confusion de Babylone, mais gardez le jour surnaturel de Christ, qui s'est levé d'en haut, qui se garde en croyant et en marchant dans la lumière de Christ, et en étant greffé en lui. Cela vous conduira au vrai jeûne, en vous détournant de vous nourrir de tout mal, et à la vraie prière dans l'esprit, comme Christ et les apôtres l'ont enseigné. Le fruit de l'esprit est amour, paix, joie, etc. La naissance de l'esprit n'est pas une naissance persécutrice. Mais celui qui est né de la chair persécutera celui qui est né de l'esprit, parce que celui-ci ne suivra pas la naissance de la chair, avec ses principes faibles et appauvris du monde, qui enchevêtre par son joug de servitude, et son observance des jours, des mois, des temps, des jeûnes, des fêtes et des années, contre quoi la naissance de l'esprit doit demeurer ferme, dans la liberté dont Christ l'a rendu libre. Ne savez-vous pas que les Turcs gardent leur sabbat le sixième jour, les Juifs le septième jour, et que les chrétiens se réunissent le premier jour de la semaine? Et le jour que gardent les Turcs, les boutiques des Juifs et des chrétiens sont ouvertes, et le jour que gardent les Juifs, les boutiques des chrétiens et des Turcs sont ouvertes, et les premiers jours que gardent les chrétiens, les boutiques des Juifs et des Turcs sont ouvertes. Le Turc ne force ni les Juifs ni les chrétiens à fermer leurs boutiques les jours de leurs assemblées, mais il leur laisse leur liberté en Turquie. Et où lisez-vous que jamais les Turcs aient forcé des chrétiens à observer l'un quelconque de leurs jours saints, jeûnes ou fêtes? Si ce n'est pas le cas, les chrétiens ne devraient-ils pas surpasser les Turcs en accordant la liberté à toutes les consciences délicates de servir Dieu, puisque le Christ et les apôtres ne commandent pas, et ne contraignent pas non plus, les gens à observer des jours saints ou des temps ou des mois ou des années mais qu'ils doivent prier toujours en esprit, et jeûner toujours de querelles et de disputes, de toutes sortes de péchés et de mal, et cela abattra le poing de la méchanceté et le lien de l'iniquité. Pourquoi les personnes d'une conscience délicate n'auraient-elles pas la liberté d'exercer leur conscience envers Dieu ? Afin d'avoir une bonne conscience toujours, envers Dieu et envers les hommes, d'accomplir ce que Dieu requiert, et de faire à tous les hommes ce qu'elles voudraient qu'on leur fît, et d'aimer leurs prochains comme elles-mêmes, alors que tant de consciences débauchées, mauvaises et cautérisées, comme au fer rouge, ont la liberté de mener une vie et une conduite dissolue, et de tenir des propos dissolus dont les langues sont libres de jurer et de maudire, et donc. Que les magistrats regardent et voient comment cette conscience mauvaise est cautérisée à la liberté de s'exercer en toutes sortes de choses mauvaises dans toute la chrétienté, ce qui est une grande honte et un déshonneur pour Dieu, le Christ et le christianisme, oui, et pour l'humanité. Pourquoi donc le peuple de Dieu n'aurait-il pas la liberté d'exercer ses bonnes et délicates consciences envers Dieu et envers les hommes? Le mystère de la foi, dont Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur, est gardé dans une conscience pure, et l'œuvre du véritable magistrat chrétien ne devrait-elle pas être d'encourager l'exercice de cette conscience pure envers Dieu et envers les hommes, et de décourager l'exercice de cette conscience mauvaise et cautérisée qui déshonore à la fois Dieu, le Christ et le véritable christianisme? Sinon, comment les magistrats sont-ils une louange pour ceux qui font le bien et une terreur pour les malfaiteurs? Concernant le fait de ne pas ôter nos chapeaux par respect envers les hommes, beaucoup, sous le nom de chrétiens, se sont offensés de nous parce que nous ne pouvions pas ôter nos chapeaux et nous incliner devant eux, ce pourquoi nous ne trouvons aucun commandement du Christ ni de ses apôtres, mais plutôt le contraire. Car le Christ a dit « Je ne reçois pas d'honneur des hommes », notez, il ne recevait pas d'honneur des hommes, et plus loin, « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de l'honneur les uns des autres, et ne cherchez pas l'honneur qui vient de Dieu seul ?» Or le Christ déclare que c'est un signe d'incrédulité que de chercher de l'honneur les uns des autres, et de ne pas chercher cet honneur qui vient de Dieu seul, et l'action d'ôter son chapeau et de s'incliner avec, n'est-elle pas un honneur rendu aux hommes, qu'ils recherchent les uns des autres, et dont ils s'offensent s'ils ne l'obtiennent pas? Les Turcs eux-mêmes ne se moquent-ils pas des chrétiens dans leurs proverbes en disant « Les chrétiens passent une grande partie de leur temps à ôter leur chapeau et à se montrer leur tête nue les uns aux autres ». Ceux qui portent le noble nom de chrétiens ne devraient-ils pas être au-dessus des Turcs, et au-dessus de la recherche d'honneur les uns des autres, et de la persécution de ceux qui ne veulent pas le donner, puisque tous les vrais chrétiens croyants ne devraient chercher que l'honneur qui vient de Dieu seul? C'est le devoir de tous les vrais croyants en Jésus-Christ, car ils ne cherchent pas à honorer les hommes, ni à être honorés par les hommes. Et celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. Le proverbe des Turcs n'est-il pas un reproche aux chrétiens, qui disent « Les chrétiens passent une grande partie de leur temps à ôter leur chapeau et à se montrer leur tête nue les uns aux autres. » N'avez-vous pas condamné à des amendes et emprisonné beaucoup de gens, parce qu'ils ne voulaient pas ôter leur chapeau devant vous et vous montrer leur tête nue? Dans beaucoup de vos tribunaux, ils n'auront ni droit ni justice, ni liberté ni franchise dans les villes ou les États, quand bien même ils auraient réellement accompli leur temps et seraient des hommes honnêtes et civilisés, à moins qu'ils n'ôtent leur chapeau et ne vous montrent leur tête nue. N'avez-vous pas fait une loi contre cela, qu'ils doivent payer une amende de 2 florins s'ils ne le font pas? Ne cherchez-vous pas à les contraindre et à les forcer à le faire, et à infliger des amendes à ceux qui ne le font pas, comme à Landsmeer en Waterland? N'est-ce pas là l'honneur que vous recherchez les uns des autres? Les pharisiens et les juifs n'ont-ils pas fait de même? Quant à ce que vous dites, l'apôtre commande aux croyants d'honorer tous les hommes, et ceux qui gouvernent bien sont dignes d'un double honneur. Si cet honorer tous les hommes consistait à ôter son chapeau devant tous les hommes et à montrer à tous les hommes sa tête nue, alors vous enfreignez vous-même ce commandement, car vous ne le faites pas envers tous les hommes en général. Et si ceux qui gouvernent bien doivent avoir un double honneur, alors pour eux il faudrait ôter son chapeau 2 fois et montrer sa tête nue 2 fois. Si cet honneur du chapeau et le fait de montrer la tête nue est une invention des hommes et ne vient pas de Dieu, et vous ne pouvez pas le prouver par l'Écriture, tout en disant « c'est notre règle », alors vous agissez en dehors de la règle, et vous forcez les gens à agir contre votre règle. Car où les prophètes, le Christ ou les apôtres ont-ils jamais commandé une telle chose? Montrons un commandement, une pratique et un exemple en ce sens. Nabuchodonosor, qui était un persécuteur, et jeta les 3 enfants d'Israël dans le feu avec leurs chausses, manteaux et chapeaux. Nous ne lisons pas qu'ils se soient offensés de parce qu'ils n'avaient pas ôté leur chapeau et ne lui avaient pas montré leur tête nue, mais parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner devant son image. Et n'est-il pas dit dans la marge de la Bible, là où il est dit « Honorez tous les hommes, ayez tous les hommes en estime, alors ceux qui gouvernent bien sont dignes d'une double estime, et cette estime doit être véritablement dans le cœur, sans aucune envie, malice ni haine. » Comme tous les hommes sont l'ouvrage de Dieu, ils doivent être estimés dans le cœur par l'Esprit de Dieu, et ceux qui gouvernent bien sont dignes d'une double estime. Voici le véritable honneur venant du cœur, tant envers Dieu qu'envers l'homme, son ouvrage. Car on peut ôter son chapeau et montrer sa tête nue les uns aux autres 1 fois, ou 2 fois aux officiers et magistrats, et pourtant être plein d'envie, de malice, de haine et de meurtre dans son cœur les uns contre les autres, et leur donner cet honneur, comme vous l'appelez, et pourtant parler ou souhaiter du mal contre eux, quand ils leur ont tourné le dos. Le véritable honneur ou estime dans le cœur envers tous les hommes, comme ils sont la création de Dieu, est sans aucun mauvais souhait ni pensée dans le cœur envers quiconque, et ceux qui gouvernent bien ont la double estime que Dieu a placée sur les peuples. Il n'y a aucun mal dans le cœur qui rende ce respect, cette estime ou cet honneur, et qui les amène à aimer leurs prochains comme eux-mêmes, et à faire à tous les hommes ce qu'ils voudraient qu'on leur fasse, en ce qu'ils estiment tous les hommes, et ont une double estime pour ceux qui gouvernent bien. Cela va bien au-delà de tout l'honneur d'ôter son chapeau une fois devant tous les hommes, et deux fois devant ceux qui sont dignes du double honneur, comme vous pouvez l'appeler. Mais nous voudrions demander aux chrétiens, qui pratiquent cet honneur du chapeau et le fait de se montrer leur tête nue, qui a inventé cet honneur, puisqu'ils ne peuvent pas prouver que jamais le Christ ou les apôtres aient commandé ou pratiqué une telle chose, ni Moïse au temps de la loi. Ne dites pas et ne pensez pas que nous ayons cette pratique de ne pas ôter nos chapeaux du Turc, car nous avons été poussés par l'Esprit du Seigneur, avant même d'avoir entendu parler du proverbe et de la pratique des Turcs, à laisser l'honneur qui est en bas et à chercher l'honneur qui vient d'en haut, lorsque nous en sommes venus à être de véritables croyants en Jésus-Christ. Concernant la persécution, l'emprisonnement et le bannissement du peuple de Dieu, en qui le Christ est manifesté et demeure dans leur cœur, le Christ ne vous dit-il pas qu'en agissant ainsi vous l'emprisonnez? Alors, ne le bannissez-vous pas et ne le persécutez-vous pas hors de vos villes et corporations? Et comment pouvez-vous entrer dans son royaume et y avoir part, même si vous le professez en parole? Cela ne doivent-ils pas aller au châtiment éternel, qui ne visite pas le Christ en prison? Alors que deviendrez-vous, vous qui le bannissez et l'emprisonnez là où il est manifesté dans ses membres, et qui ne leur permettez pas de se réunir pour jouir de lui au milieu d'eux, selon sa promesse? C'est pourquoi vous, qui ne laissez pas le Christ régner dans son peuple et avoir sa liberté en eux dans vos villes et vos pays, vous n'aurez pas votre liberté dans le ciel. Vous qui ne laissez pas le Christ régner dans vos cœurs, ni ne lui permettez de régner dans son peuple ici sur la terre, dans ce monde, dans vos royaumes, vous ne régnerez pas avec le Christ dans le ciel, dans son royaume, ni dans le monde sans fin. Vous qui bannissez la vérité hors de vos villes ou pays, ou son peuple à cause d'elle, vous bannissez la vérité et le Christ hors de votre cœur, afin qu'il n'y règne pas, ainsi vous-même n'êtes pas les temples de Dieu. Quand vous avez banni le Christ et sa vérité de vos propres cœurs, vous bannissez de vos biens et de votre pays ceux en qui il règne. Alors voyez quel jugement le Seigneur amène sur vous, quand vous êtes laissés à vous-même, oui, des craintes et des troubles, un jugement après l'autre, viennent sur vous jusqu'à vous en remplir. Mais les bannis et ceux qui souffrent pour la vérité et pour le Christ ont une demeure paisible dans la vérité, dont le diable est dehors et où il ne peut entrer, demeure qui survivra à toutes les demeures des méchants et des persécuteurs, quand bien même elle serait remplie de paroles sans vie ni vérité. La vie et la vérité survivront à toutes les doctrines hautaines, et le Christ l'agneau, et sa semence patiente, vaincront le dévoreur avec sa semence impatiente, et ceux qui ont le vêtement, la justice du Christ, qui est le fin lin, trouveront qu'elle survivra à tous les haillons et inventions des hommes. Le Christ dit à ses disciples, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde persécuteur. » Il dit aussi à ses disciples, « Ne vous étonnez pas que le monde vous haïsse car il m'haït avant vous. » Que tous ceux donc qui se professent chrétiens renoncent à la persécution au sujet de la religion, des églises ou du culte, des jours de jeûne ou de prière, car vous n'avez aucun commandement du Christ et de ses apôtres pour persécuter qui que ce soit. Le Christ qui est le roi des rois et seigneur des seigneurs, lorsqu'on l'appela séducteur, qu'on le blasphéma et qu'on dit, il a un démon, ne persécuta aucun de pour cela, et ne força ni ne contraigne personne à l'entendre et à le croire, ni les apôtres après lui, mais il dit à ceux qui auraient voulu arracher l'ivraie, laissez l'ivraie et le blé croître ensemble jusqu'à la moisson. Ainsi vous n'avez aucun commandement du Christ ou de ses apôtres de persécuter, d'emprisonner, de bannir ou de dépouiller des biens quiconque pour affaire de pure conscience et de religion, de culte, de foi et d'église, au temps de l'Évangile. George Fox Arlingen en Frise, le 11 du 6 e mois, 1677 avertissement aux magistrats, aux prêtres et aux peuples de la ville de Hambourg, afin qu'ils s'humilient devant le Seigneur et ne soient pas orgueilleux. Amis, vous avez peint et orné l'intérieur de vos maisons extérieures et de vos hauts lieux, mais regardez au-dedans de vos cœurs avec la lumière du Christ, par laquelle il vous a éclairé, vous et tout homme et toute femme dans le monde, et par elle vous pouvez voir combien vos cœurs et vos entrailles sont souillés de péché et de mal, que le Christ vous dit de purifier, lui qui dit aux pharisiens comment ils peignaient les sépulcres des justes, alors qu'eux-mêmes étaient pleins de pourriture et de corruption. Regardez donc en vous-même et dans vos propres cœurs de quoi vous êtes remplis. Peindre les sépulcres des justes apôtres et faire commerce et profession de leurs paroles sans le même Saint-Esprit, la même puissance, la même lumière et la même vérité dans lesquelles ils étaient, ne tiendra pas au jour de la vengeance de Dieu. Repentez-vous donc, tant que vous en avez le temps, tournez-vous vers le Seigneur de tout votre cœur et ne vous croyez pas en sécurité sans le sentiment de sa protection immédiate et toute-puissante. Car ce ne sont pas toutes vos œuvres, ni toute votre propre force, puissance et défense qui peuvent vous protéger. Ce n'est pas à vous de les regarder et de vous croire en sécurité, et de vous asseoir dans votre sécurité, de laisser vos cœurs se réjouir et d'être au repos et à l'aise. Quand le Seigneur amènera un fléau sur vous, au point que vous soyez remplis de terreur et de crainte, souvenez-vous que vous aviez été avertis, vous étiez à l'aise, mais non dans le véritable repos. Alors toute votre propre force et puissance ne vous sera d'aucun secours, vous reconnaîtrez que Dieu doit vous protéger. Prenez donc avertissement, car vos prêtres et votre peuple sont trop haut placés, trop absorbés par ce monde. Ces vanités détournent vos esprits de Dieu, votre souci est davantage pour le monde que pour Dieu, et davantage après les richesses de ce monde qu'après les richesses du monde qui n'a pas de fin. Ne savez-vous pas que tous vos monceaux de trésors extérieurs doivent avoir une fin, et que vous devez tout laisser derrière vous? C'est pourquoi je dois vous avertir et vous conseiller, ô bas prêtres et peuple, de venir à la grâce, à la lumière et à la vérité qui viennent par Jésus-Christ, à la manifestation du bon Esprit de Dieu qui vous est donné pour votre profit, afin qu'avec cette grâce, cette vérité, cette lumière et cet Esprit du Christ, vous puissiez vous tourner vers celui de qui ils viennent, lui qui a dit « Apprenez de moi » et Dieu a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Ainsi tous les enfants de la Nouvelle Alliance, qui marchent dans la voie nouvelle et vivante, écoutent le Christ, leur prophète, que Dieu a suscité et oint pour être leur maître et prêtre. Ainsi maintenant, Dieu parle à son peuple par son Fils, comme il le faisait au jour des apôtres. Le Seigneur est venu enseigner lui-même son peuple par sa grâce, sa lumière, sa vérité et son esprit, et les détourner de tous les docteurs du monde, faits par les hommes depuis les jours des apôtres, lesquels ont tenu les gens toujours en train d'apprendre, afin qu'ils soient toujours en train de les payer. Et il est venu les détourner de toutes les religions du monde, vers la religion qu'il a établie au jour des apôtres dans la Nouvelle Alliance, qui est pure et sans tache devant Dieu à ses yeux, et préserve des souillures du monde. Et le Seigneur est venu les détourner de toutes les églises du monde, vers l'Église en Dieu, dont le Christ, l'homme céleste, est la tête, et les détourner de tous les cultes du monde, vers l'adoration de Dieu en esprit et en vérité, que le Christ a établi il y a plus de 1600 ans. Ainsi tous les hommes et toutes les femmes doivent venir à l'esprit et à la vérité dans leur cœur, par lesquels ils doivent connaître le Dieu de vérité qui est esprit, et alors, en esprit et en vérité, ils l'adoreront et sauront ce qu'ils adorent et qu'ils adorent. De plus, le Seigneur est venu détourner son peuple de tous les temples du monde, afin qu'avec l'Esprit ils sachent que leurs corps sont les temples du Saint-Esprit. Et le Seigneur est venu détourner son peuple de toutes les croix, images, figures et ressemblances du monde, pour savoir que la puissance de Dieu est la croix du Christ, qui les crucifie au monde, et les élève dans la ressemblance et l'image de Dieu où l'homme et la femme étaient avant leur chute, et ainsi vers le Christ qui n'est jamais tombé. Cette œuvre, tous doivent la connaître dans leur cœur par la lumière de Jésus-Christ, qui est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. On l'appelle la lumière dans l'homme et dans la femme, et la vie en Christ, la parole, lui qui a dit « Croyez en la lumière, afin que vous deveniez enfants de la lumière ». Et la lumière vous fait voir toutes vos actions mauvaises que vous avez commises, vos voies impies dans lesquelles vous avez marché, et vos paroles et pensées impies. Si vous haïssez cette lumière et aimez davantage les ténèbres, et leur prince que cette lumière, qui est la vie en Christ, le prince de la vie, et si vous ne venez pas à elle parce que vos œuvres sont mauvaises et qu'elle vous reprendra, le Christ vous dit, cette lumière est votre condamnation. À quoi sert donc toute votre profession, lorsque vous demeurez sous la condamnation de la vraie lumière, en laquelle vous devriez croire, et ainsi devenir enfant de lumière, hors de la condamnation? Ainsi, chacun doit croire en la lumière s'il reçoit Jésus-Christ, et à tous ceux qui le reçoivent, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie, ceux qui n'ont pas le Fils de Dieu n'ont pas la vie, et si vous n'avez pas la vie, à quoi vous sert toute votre profession des Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, plus qu'aux Juifs, scribes et pharisiens qui ne voulaient pas recevoir le Christ, la vie, sur qui Dieu a fait venir son fléau débordant? Prenez donc garde, car votre force ne vaudra pas mieux que la leur, si vous n'avez pas la puissance de soutien de Dieu et du Christ, quand le fléau de Dieu viendra sur vous et que vous serez remplis d'horreur et de crainte. Mon désir est que vous vous repentiez tous du plus élevé au plus humble, et que vous ne contristiez pas, n'éteigniez pas, n'irritiez pas, ne vexiez pas et ne vous rebelliez pas contre le bon Esprit de Dieu en vous, ni ne marchiez avec mépris contre l'Esprit de grâce, ni ne vous en détourniez vers une conduite débridée, cette grâce vous instruirait et apporterait votre salut. Si vous marchez avec mépris, comment pourrez-vous échapper au fléau débordant du Tout-Puissant et à la colère de l'agneau? Mon désir est que vous obéissiez tous au bon esprit de vérité de Dieu, qui vous conduira hors de tout mal dans toute la vérité, et vous reprendra au sujet de votre propre justice, de votre propre jugement et de votre péché, et vous amènera à vous attacher à ce qui est bon, à abandonner ce qui est mauvais, et à vous tourner vers le Seigneur, qui vous recevra dans sa miséricorde et sa bonté. Par ce moyen vous pourrez échapper au fléau débordant au jour de la vengeance, jour redoutable qui vient sur tous les malfaiteurs. Ceci est un avertissement pour vous, tant pour votre bien temporel que pour votre bien éternel, pour que vous le lisiez dans vos assemblées, et vos prêtres dans leurs églises, afin que tout le peuple entende et craigne, comme vous en répondrez au terrible et redoutable jour du jugement. George Fox, Amsterdam, le 19 du 7 mois, 1667, pour les ambassadeurs réunis afin de traiter de la paix dans la ville de Nimeguen, dans les États des Provinces Unies. Jésus-Christ a dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu » Matthieu 5:9. Ainsi tous les hommes chrétiens doivent abandonner le mal et faire le bien, rechercher la paix et la poursuivre, s'ils veulent aimer la vie et voir des jours heureux. 1 Pie 3:11. Dieu a appelé tous les vrais chrétiens à la paix, 1 Cor 7:15. Ainsi tous les chrétiens doivent suivre cette paix à laquelle Dieu les appelle. Ils doivent laisser la paix de Dieu régner dans tout leur cœur, qui est au-dessus de la paix de ce monde, si vite brisée. Car l'apôtre commande aux chrétiens de laisser la paix de Dieu régner dans leur cœur, à quoi tous les chrétiens doivent être soumis. La pratique de cela devrait se trouver parmi tous ceux qui professent le christianisme, et cette paix est au-dessus de celle que le Christ ôte de la terre, Apoc 6:4, qui est la paix des méchants. L'apôtre a dit aux chrétiens, « Soyez en paix entre vous. » 1 Pétrus 5:13. Tous les chrétiens doivent obéir à ce commandement et être en paix entre eux, et non dans les guerres et les querelles. De plus, l'apôtre exhorte les chrétiens à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ainsi cette unité, ce lien de la paix, doivent être gardés et non brisés par tous ceux qui portent ce noble nom de chrétien. Ils doivent garder l'unité de l'esprit du Christ dans le lien de la paix du Prince des Princes, du Roi des Rois et du Seigneur des Seigneurs, ce qui est le devoir de tous les vrais chrétiens. Par là ils peuvent honorer le Christ en produisant les fruits de la paix, qui sont l'amour et la charité. Car l'apôtre vous dit, les fruits du bon esprit sont l'amour, la joie et la paix, la longanimité, la douceur, la bonté, etc. Galates 5, 22-23. L'apôtre exhorte les chrétiens, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Cela devrait être l'effort de tous les chrétiens. Car ce n'est pas un honneur rendu au Christ que des chrétiens se fassent la guerre et se détruisent les uns les autres, eux qui professent le nom du Christ, qui a dit « Il est venu sauver les vies des hommes, non les détruire ». Les chrétiens ont assez d'ennemis au dehors, et par conséquent ils doivent s'aimer les uns les autres, comme le Christ le commande, lui qui a dit « C'est à ceci qu'on connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres ». Il est commandé aux chrétiens d'aimer leurs ennemis, à plus forte raison de s'aimer les uns les autres. Et le Christ a dit, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Jean 15, 9. « À ceci tous les hommes connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. » Jean 13, 35. « Mais si des chrétiens se font la guerre et se détruisent les uns les autres, cela fera dire aux Juifs, aux Turcs, aux Tartares et aux païens que vous n'êtes pas des disciples du Christ. » Ainsi comme vous aimez Dieu, le Christ, le christianisme et sa paix, faites tous la paix, autant qu'il est en votre pouvoir parmi les chrétiens, afin que vous ayez la bénédiction. Vous lisez que les chrétiens étaient appelés la maison de la foi, la maison de Dieu, une nation sainte, un peuple particulier, et il leur est commandé d'être zélés pour les bonnes œuvres, non pour les mauvaises. Il est aussi commandé aux chrétiens de ne pas se mordre et se dévorer les uns les autres, afin qu'ils ne soient pas consumés les uns par les autres. N'est-ce pas une triste chose que des chrétiens se mordent et se consument les uns les autres sous les yeux du Turc, des Tartares, des Juifs et des païens, alors qu'ils devraient s'aimer les uns les autres et faire à tous les hommes ce qu'ils voudraient que les hommes leur fassent? Une telle œuvre de dévoration ouvrira la bouche des Juifs, des Turcs, des Tartares et des païens pour blasphémer le nom du Christ, le Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs, et les amènera à parler en mal du christianisme, en voyant comment l'unité de l'esprit est brisée parmi ceux qui professent le Christ et la paix du Christ. Tous les chrétiens doivent avoir à cœur l'enseignement de Dieu et du Christ, qui enseigne aux chrétiens à s'aimer les uns les autres, oui même leurs ennemis, et persuader les rois et les princes de donner la liberté à toutes les consciences délicates en matière de religion et de culte, eux vivant paisiblement sous tout gouvernement, afin qu'à l'avenir il n'y ait plus d'emprisonnement ni de persécution parmi les chrétiens, à cause des consciences délicates, au sujet de la foi, du culte et de la religion, pour que les Juifs, les Turcs, les Tartares, puisque les chrétiens n'ont pas un tel commandement de la part du Christ et des apôtres, mais au contraire celui de s'aimer les uns les autres, et sachant que le Christ a dit à ceux qui auraient voulu arracher l'ivraie, laissez l'ivraie et le blé croître ensemble jusqu'à la moisson, qui est la fin du monde, de peur qu'ils n'arrachent le blé, et qu'à la fin du monde le Christ enverrait ses anges, et qu'ils sépareraient le blé de l'ivraie. Ainsi le Christ vous dit que c'est l'œuvre des anges à la fin du monde, et non l'œuvre des hommes avant la moisson à la fin du monde. Toute cette persécution, ces bannissements, ces emprisonnements et ces mises à mort pour cause de religion, n'ont-ils pas été le prétexte d'arracher l'ivraie, et tout cela n'a-t-il pas eu lieu avant la moisson, avant la fin du monde? Tout cela n'ont-ils pas agi contre le commandement exprès du Christ, le roi du ciel, tous les rois et gouvernants, surtout ceux qui se disent chrétiens, doivent obéir au commandement de leur Seigneur et Sauveur, et laisser l'ivraie et le blé croître ensemble jusqu'à la moisson, et la moisson est la fin du monde. De plus, le Christ dit à certains de ses disciples, qui auraient voulu que le feu descende du ciel pour détruire ceux qui ne voulaient pas le recevoir, dans leurs ailes, qu'ils ne savaient de quel esprit ils étaient, et il les reprit, disant, « Il n'est pas venu pour détruire les vies des hommes, mais pour les sauver. » Tous ceux qui ont détruit les vies des hommes au sujet de la religion et du culte de Dieu, ont-ils su de quel esprit ils étaient? N'ont-ils pas fait ce qu'ils ne devaient pas faire? Ce que le Christ a interdit en disant, de peur que vous n'arrachiez le blé avec l'ivraie, et en disant, c'est l'œuvre des anges à la fin du monde, Dieu n'a-t-il pas montré à l'homme ce qui est bon et quel est son devoir? Aimer la miséricorde, pratiquer la justice et marcher humblement avec son Dieu, ce à quoi l'homme doit prendre garde. Et l'apôtre exhorte les chrétiens à rechercher la paix avec tous les hommes, et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12:14. Pourquoi les chrétiens devraient-ils se faire la guerre et lutter les uns contre les autres, alors qu'ils reconnaissent tous en paroles un seul roi, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, dont le commandement est qu'ils s'aiment les uns les autres, ce qui est une marque par laquelle on les connaîtra comme disciples du Christ, comme je l'ai dit plus haut. Et le Christ, qui est le roi des rois et Seigneur des seigneurs, a dit, « Comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns les autres », Jean 15:12 et Jean 13:34, et l'apôtre a dit, « Les chrétiens doivent être patients envers tous les hommes », 1 Corinthiens 5:14. De la part de celui qui aime la vérité, la justice et la paix, et désire votre bien temporel et éternel, afin que dans la sagesse de Dieu, qui est pure, douce et pacifique d'en haut, vous soyez dirigés, et que vous régliez toutes les choses que Dieu vous a confiées pour sa gloire, et que vous arrêtiez ces choses parmi les chrétiens, autant que vous en avez le pouvoir qui déshonore Dieu, le Christ et le christianisme. George Fox Amsterdam, le 21e du 7e mois, 1667, fin du volume Yibak, beau témoignage pour Fox.